Alors, le nouveau plan de la rentrée a été finalement déposé aujourd'hui après beaucoup d'impatience et d'inquiétude pour les parents, les enseignants. Là, on a l'heure juste. On a entre autres annoncé que le port du masque sera obligatoire à partir de la cinquième année, donc cinquième année du primaire, bien sûr. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, avait promis de revenir à ce micro il y a une dizaine de jours. Il tient promesse. Jean-François Roberge, bonjour.
Bonjour, Mme Lavallée.
Alors, Jean-François Roberge, Monsieur Roberge, devrais-je dire, ma première question, c'est sur le masque. Qui va montrer aux jeunes comment le porter?
Bien, je pense que quand on va retourner en classe, dans trois semaines, ça va déjà faire pratiquement un mois qu'ils le portent. Il faut se dire là, qu'en ce moment, dans les autobus, à l'épicerie, si on entre au restaurant, à peu près n'importe où, les jeunes maintenant, à partir de 10 ans, s'habituent à porter le masque. Ceci dit, ceux qui ne sont pas habitués ou qui le font de manière incorrecte, ils vont recevoir les informations à la meilleure place au monde pour apprendre quelque chose, c'est-à-dire à l'école, avec les meilleurs au monde pour l'expliquer, c'est-à-dire les professeurs.
Bien, parce qu'effectivement, il y a toutes sortes de façons. Il paraît que quand on le touche trop, notre masque, là, pendant la journée, on peut se contaminer aussi. Ôte le masque, remets le masque, ôte le masque. Alors, il va falloir faire attention puis s'assurer aussi que c'est bien nettoyé à la maison, je présume. Il y aura, j'imagine, des directives aux parents là-dessus. Dites-moi une chose. J'ai écouté votre point de presse, bien sûr. Vous dites que quand un élève doit être renvoyé à la maison, soit parce qu'il y a une inquiétude COVID ou autre chose, que dans les 24 heures, il aura accès à l'enseignement à distance. Comment pouvez-vous faire une telle promesse aujourd'hui?
Je réfère à un cas où une école est fermée à cause d'une éclosion ou une classe serait fermée pour un 2 semaines ou un 3 semaines. À ce moment-là, eh bien, toute la classe ou toute l'école basculera rapidement vers l'enseignement à distance. Puis on donne aujourd'hui les balises nationales très claires. Donc, ça voudrait dire, je donne l'exemple pour le secondaire, là, une quinzaine d'heures de cours en visioconférence par semaine en moyenne, 2 heures par jour d'accès à l'enseignant pour être capable de répondre à des questions ou avoir du soutien supplémentaire si on a des besoins particuliers. En plus de travaux. Si jamais les jeunes ont besoin d'un outil technologique, donc une tablette, un ordinateur, on sera capable d'en prêter. D'abord parce qu'on ne ferme pas une région complète ou toutes les écoles du Québec. Ça serait une classe ou une école.
Okay.
Donc, il y a suffisamment dans le réseau. Et en plus, on a passé des commandes pour plus de 100 millions de dollars pour acheter d'autres tablettes et ordinateurs. Donc, on est équipé.
Et donc, c'est pas pour un élève. Mettons qu'un élève, justement, là, tombe pas malade, mais qui est en quarantaine ou en quatorzaine, ou en tout cas, ce qu'il faudra là, s'il y a des symptômes. Lui, est-ce qu'il aura droit aussi 24 heures après à un accès à la classe?
Vraisemblablement, si un élève a une toux persistante pendant 24 heures, on l'envoie à la maison pendant 24 heures, 48 heures, les symptômes baissent, finalement c'était un petit rhume, quelque chose comme ça, on ne met pas en place tout un protocole. C'est la même chose que ce qui arrivait les années passées. On n'envoyait pas un enfant qui fait de la fièvre à l'école et puis tout simplement, l'enfant repartait avec son sac à dos, avec des devoirs, il reçoit par courriel un suivi. Ce dont je vous parle, c'est pour les élèves qui ont des symptômes ou des vulnérabilités à la COVID et qui n'iront pas à l'école pendant peut-être quelques semaines ou quelques mois avant même que le vaccin arrive, c'est sûr que ces élèves-là, il faut leur donner une formation de qualité. Et même chose pour les élèves qui verraient leur classe ou leur école fermée pour quelques semaines. À ce moment-là, on bascule vraiment vers l'enseignement à distance. C'est quand même une nuance qui est importante.
Tout à fait. Maintenant, j'ai promis aux parents qui m'ont écrit de vous poser leurs questions. Alors, la prochaine vient d'une maman et d'une enseignante. Les deux m'ont posé cette question. Les suppléants devront se promener d'une école à l'autre et ça les inquiète. Que faire?
Je comprends cette inquiétude-là, puis je sais qu'il y a des gens aussi qui réfèrent en disant, mais voyez-vous, c'est un problème qu'on a vécu avec les CHSLD, où il y avait beaucoup de mouvements de personnel. Juste faire une mise en garde à ce sujet-là. Dans les CHSLD, d'abord, beaucoup de gens étaient infectés dans les CHSLD, c'est pas le cas dans les écoles. Ensuite, en CHSLD, le personnel interagit, touche directement, manipule les patients dans les écoles, on garde une distance de 2 mètres, donc c'est pas la même chose. Ceci dit, j'ai eu des conversations avec le ministre de la Santé, M. Dubé, à cet égard-là, et on travaille pour voir comment on peut minimiser les risques dans le cas où du personnel travaille dans plus d'une école.
Oui, parce que ça peut vraiment être embêtant. Une autre question aussi qui, celle-là est de moi. Dans votre point de presse, il était question d'un mètre de distance. Il me semble qu'on va être tout mêlé entre, pour nous, le 2 mètres quand on est à certains endroits, 1,5 mètre quand on est au spectacle, 1 mètre pour les jeunes. On s'y retrouve plus. Pourquoi pas garder une seule donnée, dire c'est 1,5 mètre tout le monde, ou 2 mètres, ou 1 mètre, et après ça, on n'en parle plus.
Bien, écoutez, ce sont des directives de la santé publique en version, là, en fonction des études épidémiologiques. Pour les enfants qui sont vraiment, qui l'attrapent beaucoup moins, qui sont vraiment moins des vecteurs là, de propagation, de manière internationale, on le voit vraiment beaucoup en Europe, là, la norme, c'est pas mal le 1 mètre. Et ça va être facile pour les enfants là, de savoir qu'on garde 1 mètre entre nous et les élèves d'une autre classe, tout simplement. Puis pour les adultes, ben, c'est 2 mètres. Donc, je pense que c'est assez facile.
Mais je peux. Oui, pas tant que ça, je vais vous dire. Le réflexe, hein, on est des latins malgré tout. Hein. On a tous envie toujours de se rapprocher, puis il faut y penser tout le temps, même en adulte. Question du public aussi, comment gérer les cours de musique? Est-ce qu'il va y en avoir? Et j'imagine que quand c'est des cours d'instruments, c'est plus délicat.
Je veux juste clarifier quelque chose. On a vraiment fait le choix de réouvrir 100% de nos écoles, d'accueillir 100% de nos élèves, d'enseigner 100% des programmes. Donc, on coupe pas dans les cours d'éducation physique. C'est une autre question qui est arrivée. On coupe pas dans les cours d'art. Vous savez, dans chaque école, on doit enseigner 2 des 4 heures là, pour lesquelles il y a des programmes. Là. Il y a musique, en plastique, danse et art dramatique. Chaque école choisit quels sont les 2 domaines artistiques qui sont enseignés. Il n'y a pas de coupure d'aucune façon. Certaines écoles font un choix, supposons, ils privilégient musique par rapport à danse.
Donc, ce sera là.
Ça reste là. C'est sûr que dans certains cas, s'il faut qu'on se prête la clarinette, là, c'est assez évident qu'on va enseigner autre chose. Peut-être que c'est mieux de faire des cours de danse à ce moment-là ou de faire d'autres types de cours de musique. Mais ça, c'est des considérations de santé. On comprend que il y a des compromis à faire. Pas des compromis sur les cours d'art, mais sur des compromis sur la manière d'enseigner les arts à nos élèves pour assurer la santé et la sécurité.
Bon. Une chose qui est très importante, vous avez annoncé une ligne téléphonique pour répondre aux inquiétudes des parents. Est-ce que vous allez être prêt à recevoir un flot d'appels, à supposer qu'il y a un flot d'appels? Parce que peut-être que votre point de presse aussi aujourd'hui aura clarifié assez de choses. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise de voir la réaction de José Scalabrini des syndicats. Elle était quand même assez... on disait, pas totalement rassuré, mais c'était pas négatif non plus. Alors, je me disais, bon, coudonc, vous avez quand même fait une certaine... vous avez fait le tour des points qui inquiétaient les gens beaucoup. Est-ce que vous allez être prêt à recevoir un flot d'appels?
Oui, on va être prêt à recevoir un flot d'appels, effectivement. C'est sûr qu'au début, hein, il y a plus d'inquiétudes, mais ces inquiétudes-là vont s'apaiser à mesure qu'on va se rendre compte que notre plan est efficace et fonctionne. Ça a été un peu la même chose quand on a réouvert avec un grand succès nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal ce printemps. Il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Puis finalement, à chaque semaine, il y avait de plus en plus de parents qui disaient « ben ça va bien, je suis rassuré, j'envoie mon enfant à l'école ». Et vous avez raison de souligner que les partenaires avec lesquels on a travaillé pour élaborer ce plan, sont d'accord, sont rassurés. La Fédération des comités de parents qui salue l'annonce, l'Association des cadres scolaires qui est satisfaite, l'Association des directions d'école qui dit que tout est en place pour une rentrée réussie. Effectivement, Mme Scalabrini qui dit qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue, salue la cohérence du plan. Donc, je pense qu'on a fait nos devoirs.
Oui, ben écoutez, j'avoue moi-même qu'en écoutant votre point de presse, je me disais, ben surtout à la lumière de toutes les questions que je recevais des parents, je me disais, ben puis des enseignants, ça fait le tour de pas mal de points. Dernière chose, ou enfin avant-dernière peut-être, 2e vague, vous êtes prêts? Parce qu'on a vu quand même là quand cet été dans les grands jours, il y a eu des éclosions, c'est pas rassurant. Là, je veux surtout pas faire peur aux parents, mais de quelle façon vous envisagez la 2e vague dans le contexte scolaire?
Bien, écoutez, le risque zéro n'existe pas, je ne l'apprends pas à personne, mais encore une fois, ce qui s'est passé ce printemps est très, très rassurant. On a ouvert des écoles, on avait plus de 100 000 enfants dans nos écoles. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de cas, mais je peux vous dire qu'il y a eu très peu d'éclosions et de propagations. Oui. Il y a eu, c'est vrai, des cas dans les camps de jour cet été.
Oui.
Il y a eu des cas dans les camps de jour cet été. Il y a eu des camps de jour à Montréal. Il y a eu des camps de jour, ce qu'on appelle en zone chaude. Oui, il y a eu quelques cas. mais sur le nombre de milliers, de dizaines de milliers d'enfants qu'ils ont fréquentés, c'est correct. Et il va falloir accepter le fait qu'il y ait quelques cas, bien sûr, sans quoi, ben, on est obligé de fermer nos écoles. Puis c'est pas imaginable de penser qu'on ferme nos écoles pendant encore 6 mois, pendant encore 1 an. De toute façon, ce que nous disent les médecins, les pédiatres, oui, les pédagogues, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques en termes de santé mentale, en termes de problèmes, si on garde nos écoles fermées que si on les ouvre avec un paquet de mesures de sécurité comme ce qu'on fait.
Bon, alors donc, les enseignants reviennent dans 2 semaines, les élèves dans 3 semaines, et vous êtes confiants. Et nous, ben, on vous dit un gros merci d'avoir été à l'émission aujourd'hui. On l'apprécie. Merci d'avoir pris votre temps.